Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Elle en Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayennaise. Je suis allée pour ce nouvel épisode à Mayenne rencontrer Solène Ménager. Solène a plusieurs casquettes dans sa vie, celle de professeur, de maman, mais aussi celle de conseillère régionale, conseillère municipale et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. J'étais curieuse de connaître son parcours, son quotidien d'élu, de comment on s'engage en politique lorsqu'on est une jeune femme mayennaise. Solène nous partage dans cette discussion une partie de sa vie bien rythmée et ses convictions politiques. C'est tout cela que vous allez retrouver dans ce nouvel épisode d'Elle en Mayenne. Merci et bonne écoute. Bonjour Solène.
Bonjour Amélie.
Bienvenue au micro d'Elle en Mayenne. Merci de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode. Généralement, pour les épisodes, pour débuter, je demande aux personnes de se présenter un petit peu en quelques mots pour qu'on sache qui tu es.
Voilà. Ok, très bien. Merci déjà à toi d'être venue. Donc je m'appelle Solène Ménager, j'ai 34 ans, je vis à Mayenne. Je suis originaire 100% de la Mayenne.
Très bien.
Je suis née ici à Javron-les-Chapelles, un village en Nord-Mayenne. Et voilà, j'ai deux filles que j'ai la moitié du temps avec moi.
D'accord.
Et je suis conseillère régionale des Pays de la Loire, écologiste, et en fait porte-parole en Mayenne du parti EELV, Europe Écologie Les Verts. Voilà.
D'accord.
Et en même temps, je suis aussi professeure à Don Bosco au lycée professionnel.
Ça marche.
Voilà, pour la rapide présentation.
Très bien. Détail. Ça va, j'ai des petites questions qui me viennent comme ça. Je voulais un petit peu comprendre et puis te demander comment t'en es arrivée à être, on va dire, engagée politiquement. Quel a été un petit peu ton parcours? Est-ce que ça a été le fruit du hasard ou est-ce que ça a été une volonté que t'as nourrie assez tôt? Parce que c'est vrai que tu es assez jeune pour être aussi engagée politiquement. J'imagine que la moyenne d'âge n'est pas
forcément... Il y a une certaine moyenne d'âge en politique, en Mayenne notamment, au Pays de la Loire aussi. Donc, bon, pour commencer, en fait, j'ai toujours été plus ou moins engagée, pas forcément politiquement, mais dès mes 16 ans, en fait, j'étais pompier, j'étais sapeur-pompier volontaire donc à Javron. J'étais pendant quasiment 15 ans, en fait. Et donc, j'ai toujours eu, en fait, cette volonté de me sentir utile, au moins. Voilà, de faire quelque chose d'utile pour les gens. Donc, à la base, j'avais pas du tout un parcours destiné à être dans la politique. J'ai fait une école de commerce.
D'accord.
À Angers. J'ai travaillé dans le marketing plusieurs années à Paris, dans de grosses entreprises. Et puis, je suis revenue en Mayenne, voilà, il y a 7 ans, pour des raisons personnelles, et donc où je travaillais encore en communication, en marketing. Et petit à petit, en fait, en 2017, il y a eu les législatives. Et j'ai été intéressée, enfin voilà, par ce qui se passait autour de Macron. Je trouvais que c'était un renouveau, voilà, de la politique et porter des choses aussi sur l'écologie. Donc ça m'avait un petit peu intriguée. J'étais novice en politique à cette époque. J'avais vraiment rien fait avant.
Oui, t'as pas d'entourage, de personnes.
Pas du tout.
Autour
non,
de
non.
Toi qui sont engagées, qui auraient pu dire ça se passe un peu comme
oui,
ça.
Oui, voilà.
On a l'impression de l'extérieur que ça, tu vois, c'est un milieu un peu fermé
ou
peut-être.
Ouais. Et en fait, pas du tout. Au contraire, même. Enfin, tout le monde s'est demandé ce que j'allais faire, en fait. Enfin, pourquoi je faisais ça. Personne ne comprenait vraiment pourquoi je m'intéressais à tout ça. Donc, je m'étais intéressée à la campagne à l'époque de Jocelyn Chouzy, qui était candidat ici pour les législatives, pour LREM. Et je m'étais très vite retrouvée sa suppléante, en final.
D'accord.
Voilà. Et donc, j'avais fait ma première campagne pendant ces législatives de 2017. On avait fait un beau second tour et j'avais vraiment découvert les bases, en tout cas, de ce qu'était la politique en Mayenne, les intervenants, enfin voilà, qui étaient en place, etc. Et après, ensuite, voilà, on n'a évidemment pas gagné à ce moment-là, donc moi, je m'étais retirée un petit peu du milieu politique, du jeu politique. J'avais continué ma vie, j'ai eu mes deux filles, continué ma vie professionnelle, etc. Et je m'étais rééloignée de tout ça en gardant quand même un petit lien sur un compte Twitter, ce qui est quand même le minimum syndical en politique, puisque c'est vraiment le sérail, et en postant de temps en temps, voilà, des sujets politiques... Et des sujets d'intérêt pour moi sur la société, etc. Et en fait, j'ai été contactée en juillet 2020 par Maël Ranou, qui était coordinateur en Mayenne du parti EELV, qui a voulu me rencontrer parce qu'il voyait bien que j'étais voilà, toujours intéressée par les sujets écologistes, et qu'il avait entendu parler de moi aux législatives, etc. Et en fait, on s'est rencontrés et très vite, on a parlé des régionales de 2021. Et en fait, je me suis lancée en fait, avec lui. J'ai accepté aussi d'être chef de file pour ces régionales en Mayenne à ses côtés. Et c'est comme ça que tout a commencé, donc c'est quasiment un hasard. Enfin, c'est vrai que c'est pas... ça m'est un petit peu tombé dessus, mais j'ai très vite... enfin, j'adore ça, donc c'est vrai que j'ai très vite plongé. J'ai voulu découvrir, en fait, à quoi ça pouvait ressembler encore une fois. Je pensais pas du tout que ça mènerait là où je suis aujourd'hui, parce que j'étais pas censée être de liste, etc., à l'époque. Mais je voulais vraiment découvrir, voilà, à la fois un engagement qui pouvait être relié à des convictions profondes, et ensuite, voilà, tout le côté pratique aussi de comment se passe une telle campagne, toutes les rencontres que ça peut apporter, et l'ouverture en fait, d'esprit, de découvrir comment fonctionne un parti, etc.
Très bien. Il y avait cette curiosité et aussi tes valeurs du coup, personnelles qui se retrouvaient du coup, dans le parti.
Ouais, exactement. Alors effectivement, en fait, moi, mes valeurs, sur les valeurs en fait, écologistes, on vit dans un monde d'urgence, donc c'était aussi ça. Je venais d'avoir mes filles, je voulais pas qu'elles évoluent dans un monde par à volo. Hein. Enfin, pour moi, c'est vrai que niveau climat, là, ça commence à être très compliqué. On voit qu'on... même là, on vit la semaine la plus chaude jamais enregistrée en France. Enfin, non, pas en France, dans le monde, en fait, justement, pas forcément qu'en France. Et même sociétalement, enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en France et à l'étranger qui font preuve d'un manque de justice sociale énorme. Et du coup, je me suis dit, bon, quelle est l'échelle idéale pour agir là-dessus? Est-ce que c'est au niveau individuel? Est-ce que c'est au niveau associatif? Est-ce que c'est au niveau politique? Et en fait, la réponse, elle n'existe pas, elle est partout. C'est-à-dire que pour moi, tout est politique, en fait, quelque part. La politique, c'est, voilà, c'est toute l'action qu'on peut avoir autour de soi. Chacun choisit son meilleur...
voilà. De t'engager...
Exactement. Chacun choisit sa meilleure manière d'engager, ou pas. Enfin, d'autres préfèrent juste se concentrer sur sa cellule familiale, etc. Et c'est OK. C'est juste que moi, j'aime bien l'engagement et j'essaye de trouver l'échelle à laquelle je peux être la plus pertinente, quoi. Et donc pour moi, la politique, c'était mon échelle pertinente. C'est-à-dire que c'est un biais pour lequel je peux avoir un changement, enfin, on peut avoir un impact systémique sur les choses. Et via les lois, via comment on redistribue l'argent public, etc., c'est là qu'on peut avoir un vrai impact à une échelle, donc pour la mienne en tout cas, pour l'instant, au moins régionale, quoi. Donc c'est déjà assez important. Et c'est pour ça que j'ai voulu me mettre à fond là-dedans. Je raconterai pas forcément tout le déroulé qui m'a mené jusqu'ici parce que ça va être long. Mais en tout cas, effectivement, à la suite de cette campagne dont je parlais avec Maëlle Ranou, et donc avec Europe Écologie Les Verts, et avec tout un collectif qu'on a monté derrière Mathieu Orphelin à l'époque, qui était donc tête de liste en Pays de la Loire, j'ai été élue au final. Et donc depuis, bah, je mets toute mon énergie à essayer d'appliquer ou d'éveiller les consciences, en tout cas, sur le programme qu'on défendait, puisqu'on est élu en opposition, pas en majorité.
Ok, voilà. D'accord, très bien. Comment tu disais que tu combinais aussi donc, avec ta vie de maman et ta vie de professeur. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se passe une journée dans la vie de Solène? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi... Enfin voilà, quand je suis venue vers toi pour cet épisode-là, il y avait aussi la curiosité de se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait quand on est engagé politiquement, quand on est au conseil régional? Quelles sont un petit peu tes missions et au quotidien concrètement comment ça se traduit, ça doit être intense.
C'est très intense. C'est vrai que c'est très intense. Bon, ça peut être très fatigant, mais c'est tellement stimulant que moi, je sens plus à un moment la fatigue, en fait. C'est ça aussi. Et c'est peu dangereux, enfin, même pour l'entourage, etc. Pour mes enfants, je dois ralentir parfois. Donc, une journée n'est jamais... Enfin, je peux pas décrire une journée classique parce que c'est jamais les mêmes journées. Et en fait, ma semaine est divisée hors période scolaire, enfin, hors période de vacances, je veux dire... J'ai des cours, en fait, les mardis et jeudis. J'ai réussi à arranger mon emploi du temps avec le lycée pour avoir que 2 jours et demi de cours, caler toutes mes heures sur ces 2 jours et demi-là. Et tout le reste, en fait, est dédié à la politique. Donc, à mon mandat régional, à mon mandat municipal, parce que je suis aussi élue à Javron-les-Chapelles, et à mon implication dans le parti, puisque, donc, étant porte-parole de Éleveurs Mayenne, voilà, j'ai des réunions du parti. Je peux être amenée aussi à bouger ailleurs. Donc, la vie s'articule souvent entre Nantes, Laval, Javron, parfois Paris, et j'essaye de prioriser au maximum. Donc, évidemment, c'est sanctuariser mes heures de lycée, sauf grosses sessions régionales, etc. Mais ça arrive 4 fois par an, donc voilà. Et ensuite, je priorise mes mandats. Donc, d'abord mon mandat régional, évidemment, puisque c'est celui qui a le plus d'impact. Et en fait, effectivement, j'essaye aussi, évidemment, de toujours prioriser mes filles. Quoi qu'il arrive, hein, si elles sont malades, il y a quoi que ce soit, de les mettre en premier. Donc, c'est très dur. Donc, mon travail à la région, c'est-à-dire que je suis dans une commission à la région. Je suis à la commission économie, moi, entreprise, enseignement supérieur et recherche. Donc, on a un rythme où, voilà, en général, tous les 4 semaines, j'ai des commissions sectorielles, ce qui s'appelle, donc, dédiées à l'économie. Et puis ensuite, voilà, il y a des commissions permanentes, des commissions régionales, où là, on est en hémicycle, etc., où on doit préparer longtemps à l'avance avec le groupe politique. Et donc, ça m'occasionne quand même, on va dire, un déplacement à Nantes. Il y a des semaines où j'y vais 2 jours, 3 jours. Il y a des semaines où j'y vais pas, parce que j'arrive à faire à distance, on fait beaucoup de visio. Voilà, j'ai mes jours où je suis plutôt au lycée, mais où je dois quand même gérer beaucoup de choses. Donc sur des boucles, je suis beaucoup sur mon téléphone, je dois admettre, pour gérer sur des boucles Telegram, WhatsApp, etc. Donc des sujets, des communiqués de presse qui vont tomber, des réunions qu'on doit organiser, okay. Où j'essaye de tout faire en même temps. Quand j'ai mes filles le soir, je suis avec elles, je peux avoir des visios une fois qu'elles sont couchées. Quand j'ai pas mes filles, je suis souvent en réunion, en conseil d'administration d'un lycée, par exemple, où je dois siéger, etc. etc. Donc, okay. Ma vie est un Tetris. Hein. Voilà.
Faut réussir à tout.
Faut essayer à tout caser, ouais.
Très bien. Et tu parlais tout à l'heure des commissions. Quel est le but de ces commissions? À la fin, quel est l'objectif?
En fait, le but de ces commissions, il est, en tout cas pour la commission économique, il est vraiment de ventiler l'argent régional, en fait, le budget d'une région. Le budget de la région des Pays de la Loire, c'est 2 milliards d'euros. Mmh. Et donc, c'est énorme, c'est un levier énorme pour l'économie ligérienne. Et donc, dans la commission économie, c'est pas 2 milliards, hein, on est autour de 500, 600 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de ventiler cet argent vers les entreprises et les dispositifs régionaux qu'on a créés pour les entreprises ligériennes. Donc, ça peut aller de la TPE-PME, il y a des dispositifs pour les toutes petites entreprises, jusqu'à la multinationale qui voudrait s'installer là, etc. Et donc, évidemment, moi, ma position au Conseil régional, c'est d'orienter un maximum cet argent vers la transition environnementale. Mmh. Et donc, mon cheval de bataille à la région, c'est de conditionner toutes ces aides à un engagement de l'entreprise, peu importe sa taille, à faire un effort en faveur de la transition environnementale et aussi, idéalement, vers des engagements sociaux. C'est-à-dire, voilà, maintenir des emplois, etc., etc. Faire le plus possible de l'économie circulaire. Donc, après, j'ai bien conscience que c'est pas à la portée de toutes les entreprises. Quand on est une toute petite entreprise, on n'a pas du tout les mêmes leviers pour le faire qu'une grosse entreprise. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà à quoi servent ces commissions sectorielles. Ventiler l'argent, globalement.
Ouais. Ça marche. Tu parlais là du coup de justice sociale et d'environnement. C'est des valeurs du coup qui sont ancrées en toi. Au quotidien, est-ce qu'il y a des choses et des thématiques qui sont pour toi très importantes et que tu veux défendre
Oui, bah alors sur l'environnement, la chose moi, que je défends, c'est vraiment un changement global, systémique. C'est-à-dire que je suis vraiment pas pour culpabiliser les gens au quotidien. Moi-même, je suis pas exemplaire en fait. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je conduis beaucoup. Ça m'arrive. Enfin, je mange de la viande. Je suis pas végétarienne. Enfin voilà, je me trouve assez normale en fait dans mon attitude par rapport à la majorité des Français. Donc je suis pas du tout une écologiste, on va dire chevronnée, végane, etc. Par contre, je crois fort au changement systémique. Je crois fort au fait que la société va changer d'abord parce qu'on impulse aussi légalement des changements et qu'on oblige les choses à arriver, que les comportements individuels ont certes un sens et un impact, notamment sur tout ce qui est mobilité, quand on prend plus son vélo, etc., sur la réduction des déchets, sur les choix de consommation plutôt français, etc., mais qu'en fait, ils ne parviendront jamais à faire le changement nécessaire dont on a besoin pour répondre à l'urgence climatique, en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que l'important, c'est déjà d'essayer de faire du mieux qu'on peut chacun d'où on est, en fait, sans se mettre trop de pression et de culpabilité, sinon ça met un... Il faut que le changement soit aussi quelque part heureux et désirable, mais que, en fait, les pouvoirs publics et ceux qui ont le pouvoir financier aussi, donc les grandes entreprises, prennent leurs responsabilités. Et donc c'est pour ça que moi, en tout cas sur le côté environnemental, je m'accroche à ces changements à ce niveau-là, systémique. Sur le côté social, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que il y a énormément d'inégalités pour moi. On voit bien que même depuis le Covid, les inégalités, elles ont augmenté énormément entre les plus riches et les plus pauvres. Et rien qu'en France, je parle même pas d'un sujet mondial qui, là, est quand même catastrophique par rapport aux pays je sais pas, enfin voilà, pays en développement, quoi, d'Afrique qui sont vraiment sous des seuils de pauvreté énormes, qui vivent déjà des famines, qui en plus subissent avant nous le réchauffement climatique que les pays du Nord ont créé, quand même, que les pays riches ont créé. Donc il y a énormément d'inégalités, et pour moi, elles peuvent en tout cas, d'un point de vue global, se résoudre d'abord par un levier qui s'appelle fiscal, donc par la taxation des plus riches, et en fait le rétablissement pour les plus précaires, bon, à la fois effectivement d'un minimum pour vivre dignement, mais d'abord des services publics, quoi, qui sont globalement abandonnés, et qui, notamment en Mayenne, sur la santé, on voit bien le délitement complet à la fois de l'accès aux soins de ville, par nos médecins généralistes et spécialistes, et par les hôpitaux, qui là, bah, au mois de juillet par exemple, vont manifester, vont être fermés, les urgences vont être fermées toutes les nuits du mois de juillet. Donc c'est quand même quelque chose d'aberrant, une situation à laquelle on pensait même pas arriver il y a, je sais pas, il y a 2-3 ans, quoi. Donc en fait, c'est pour ça, les sujets sociaux, sociétaux, j'essaie de les prendre aussi au niveau local, mais ils peuvent se résoudre que de manière nationale, quelque part. Donc c'est pour ça que la politique pour moi est hyper importante, parce que tout est relié, c'est-à-dire que ça impacte notre quotidien, on n'y pense pas tout de suite, mais il arrive quoi que ce soit. Moi-même, là, j'ai eu un souci de santé, voilà, il y a 2 jours. S'il n'y avait pas eu les médecins, s'il n'y avait pas eu quoi que ce soit, enfin, je suis seule avec mes filles. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué de se sentir maintenant en sécurité dans un territoire comme la Mayenne, qui est quand même pas si éloigné que ça de Paris ou de Angers ou Rennes. On peut avoir des difficultés à trouver un médecin, quoi. Donc ça fait partie des combats que je mène, ça, et après plus globalement, voilà, il y a tout ce qui est féminisme, effectivement, place des femmes dans la société, en politique aussi, qui me tiennent à cœur. Mais enfin, le champ est ouvert à tout, enfin, c'est la lutte contre toutes les inégalités, quoi.
Quand tu défends ces idées-là, et qu'en face de toi, tu as des partis politiques qui n'ont pas les mêmes convictions, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi... Ça doit être compliqué de se dire, mais pourquoi ils ne pensent pas la même chose que moi quand même, ça me paraît évident.
Effectivement. Mais ça, tu as tout à fait raison, parce que j'ai parfois l'impression de me battre contre des murs. Il y a des moments il y a des moments difficiles, en fait, où on se dit, mais pourquoi je consacre autant d'énergie, de temps à cette lutte, alors qu'en face de moi, j'ai des personnes dont j'ai l'impression qui sont complètement hermétiques, en fait, à tout ça. Et en fait, ça dépend, parce que même là, dans la majorité de droite régionale, bon, évidemment, ils sont loin. Ils sont très loin de ce que j'attends, en tout cas, de l'action publique pour mener, en fait, une politique au niveau des attentes de notre temps. Mais ils sont ouverts à certaines choses, et parfois, il y a quelque chose qui va passer. Alors, ils vont faire comme si l'idée venait d'eux. Mais j'ai déjà des exemples, en fait, où, en fait, nous, on propose des amendements à la région, sur des sujets quelconques, hein, et où, bon, sur le coup, ils vont dire non. 3 mois plus tard, ils vont sortir l'idée comme si ça venait d'eux, et puis voilà, ça va passer, en fait. Mais peu importe, en fait, tant que ça passe, en fait. Moi, mon seul intérêt, c'est qu'on fasse avancer la chose. Et chaque petit pas est bon à prendre, en fait, à ce niveau-là, puisqu'il a déjà un impact régional. Donc chaque petit pas est bon à prendre, mais c'est vrai qu'on peut être très vite découragé, et que ce soit un niveau régional, ou là, pour le coup, un niveau plutôt local, où on se dit, mais les consciences avancent pas assez vite, c'est encore assez conservateur, etc. Alors que là, il faudrait agir tout de suite. Bon. On peut pas avoir tout de suite, et quand bien même je sais que les écologistes arriveraient au pouvoir, on pourrait pas appliquer tout ce qu'on veut non plus tout de suite, puisqu'on est dans un monde, voilà, pluriel, où on reste dépendant des réalités économiques, de la réalité globale aussi dans un monde, en fait, pas seulement dans un circuit fermé franco-français, et dans l'Europe. Donc voilà, il faut toujours faire des concessions, il faut toujours prendre chaque petite chose qu'on peut, chaque petite victoire est bonne à prendre. Et voilà, ne pas se décourager parce qu'on se dit qu'on est là pour les... Moi, comme je suis convaincue d'être là pour les bonnes raisons, eh bien, je continuerai de me battre et de surtout représenter les gens qui m'ont élu aussi. Enfin, c'est ça l'important, quoi. C'est qu'on n'est pas là pour soi, on est là aussi parce que des gens ont cru dans le projet et qu'on ne doit rien lâcher pour
eux. Ils ont les mêmes valeurs que toi et veulent aussi défendre ça.
Quoi qu'il arrive, que ça passe ou que ça passe pas, en fait, à la région, ça me donne toujours une tribune, quelque part, médiatique, une voix à porter pour quand même continuer d'éveiller les gens sur nos sujets, quoi.
Oui, et je regardais, par exemple, sur tes réseaux sociaux, c'est vrai que même si, par exemple, quelque chose que tu défends n'est pas passé ou n'a pas... Eh ben, je trouve qu'il y a quand même... ton discours et ce que tu rapportes, ça a quand même un impact sur la population, au moins, et tu te dis, j'ai au moins peut-être gagné.
Exactement, c'est au moins ça. En fait, c'est ça. C'est au moins ça de gagner. Si ça peut convaincre à chaque fois une ou deux personnes en plus, ce sera toujours ça. Et ça travaille pour l'avenir.
Et par rapport à ça, du coup, je regardais un petit peu et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de travail, voilà, quand tu présentes tes idées en commission ou ce que vous avez travaillé, il y a beaucoup de recherches derrière, j'imagine, de travail avant. Comment est-ce que tu t'es mis, on va dire, à travailler politiquement?
Alors là, j'ai été très bien entourée, parce qu'effectivement, j'ai débarqué en politique en 2021, vraiment, c'est là que j'ai été élue. Et j'ai vraiment dû tout apprendre, hein, parce que je connaissais même pas le fonctionnement de l'échelon régional, etc. Donc déjà, il faut savoir qu'on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'à la région, on est élu dans un groupe politique, avec, donc il y a 12 élus écologistes, et donc 12 aussi élus de gauche, PS, etc. Donc ça fait 24 en tout de personnes à gauche. Donc tout ça, c'est des partenaires avec qui on travaille. Il y a plein de profils différents, on apprend beaucoup les uns les autres. Et on a aussi des collaborateurs, ça s'appelle. Donc dans notre groupe de 12, on a 3 collaborateurs qui nous aident au quotidien.
D'accord.
Qui, eux, vraiment sont sur... voilà, ils vont nous faire la communication du groupe, sur les recherches, justement, de partenaires, sur fouiller les rapports pour... s'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, en fait, dans les rapports. Et pour nous aider à nous nourrir sur, voilà, on avait fait ça il y a 5 ans, on avait proposé ça il y a 3 ans, etc. Donc pour nous donner vraiment toute cette matière, et nous, pour qu'on ait au final plus qu'à essayer de rassembler toutes ces informations-là, de se faire une idée sur tel ou tel sujet, et ensuite d'établir notre discours dessus, quoi.
D'accord. Et ensuite... Tous vos discours sont travaillés avant ensemble, par exemple, quand tu prends la...
C'est vraiment nous, individuellement, qui les faisons.
D'accord, ok.
En revanche, moi, j'aime bien les faire relire un jour ou deux avant, justement par un collaborateur, pour qu'il me donne, qu'il me dise peut-être, moi, j'aurais rajouté un sujet là-dessus... ou qui me donne son avis, pour pas y aller non plus comme ça.
Oui, parce
à blanc.
Que tu portes ta voix, mais aussi celle
d'un parti.
Mais
en fait, c'est
ça.
Ma voix, c'est celle du groupe, en tout cas, parce qu'on est plusieurs parties dans notre groupe. Et je dois pas non plus trop dévier de cette voix, même si je sais profondément qu'on est alignés, que ce que je dirais, ils sont globalement d'accord avec. Je veux pas faire commettre d'impair non plus, je veux pas froisser qui que ce soit. Tout en essayant d'avoir une parole, on va dire, libre et sincère, quoi. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et j'ai aussi eu des formations. En fait, on est formé en tant qu'élu, on a droit à des formations. Donc, voilà, on a été formé sur du budget, on a été formé sur du média training, on a été formé sur nous, toutes les thématiques en tout cas qui nous intéressent en tant qu'écologistes. Hein, l'eau, on les choisit, nos formations. Là, encore en août, je vais en faire aux universités d'été du parti. Donc, on choisit nos domaines de compétences. Moi, c'est plutôt tout ce qui est économique. Réindustrialisation, relocalisation, etc., ESS, et ensuite on essaye de trouver une expertise dessus, quoi. De se nourrir de ça, de rencontrer des acteurs, de faire des lectures là-dessus, de se former là-dessus, tout simplement.
Oui, ça doit quand même représenter une grande partie aussi dans ton quotidien, être en vigilance de ce qui se fait... politiquement, mais aussi des actualités, etc.
En fait, c'est ça, il y a plusieurs niveaux. Moi, je dois me forger une expertise sur mes sujets. Donc là, c'est vraiment un travail de fond, avec plutôt des livres, etc., des webinaires, des podcasts, de rencontrer des gens qui font ça. Il y a aussi tout un quotidien politique, parce qu'il peut se passer n'importe quoi du jour au lendemain en politique. Enfin, voilà, c'est tout de suite sur BFM. Il faut être au taquet, en fait, de l'actualité. Donc tous les matins, on a aussi nos collabs qui, heureusement, nous envoient les news. Hein,
les petits flash infos.
Voilà, les petits flash infos qui vont bien sur ce qui pourrait tomber dans la journée. Et on peut s'attendre à n'importe quel moment. Donc, et là, plutôt en tant que porte-parole d'un parti, à être appelé par la radio ou quoi que ce soit pour donner un avis sur tel ou tel sujet. Il faut savoir quoi répondre, quoi. Enfin, voilà, il faut être très vite au fait de l'actualité et aussi de la position de notre parti dessus et de notre position dessus. Voilà.
Ok. On parlait tout à l'heure de comment est-ce que ça se passe quand on se confronte à d'autres valeurs politiques, à d'autres partis politiques. Mais je suppose que tu vas aussi à la rencontre des citoyens et des Mayennais. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aussi? Est-ce que ces idées-là, tu les défends aussi auprès des citoyens et des Mayennais? Ou est-ce que c'est un peu différent dans la manière de faire?
Ouais, c'est complètement différent. En fait, c'est complètement différent d'être dans une posture politique, hémicycle, etc., ou d'être à la rencontre des gens, que ce soit dans des manifestations quelconques, des fêtes, des choses comme ça. Moi, je suis plutôt dans une posture d'écoute, en fait, quand je vais à la rencontre en tant qu'élu des Mayennais. C'est vraiment... Moi, j'écoute ce qu'ils ont à me dire. Quel sujet pour eux est le plus important? Qu'est-ce qui touche le plus leur quotidien? De quoi ils ont envie de me parler, en fait? Et que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, enfin, Parce que souvent aussi, et notamment dans des départements ruraux comme la Mayenne, les écolos, ils sont quand même vus comme des bobos parisiens, éloignés des réalités, etc. Et je peux comprendre ce discours, parce qu'effectivement, on a parfois des sorties qu'on voit sur les médias d'écologistes qui sont très, très loin, en fait, de ce qu'attendent les Mayennais en termes de réponse, en fait. Quand on nous dit, oui, prenez le vélo, prenez le train, etc., enfin, on est tous d'accord, hein, c'est très bien pour la planète. Enfin, je veux dire, quand on vit à 30 km du moindre hyper-U ou quoi que ce soit, qu'on a trois enfants, enfin, on va pas prendre un vélo, quoi. Il faut se mettre à la place des gens. Donc, il faut trouver des solutions locales à chaque fois. Et en fait, c'est aussi ça que je défends, moi, en politique, c'est de s'adapter d'abord au terrain, de trouver des solutions les plus... les moins pires possibles, puisque chaque impact humain, en fait, chaque activité humaine a un impact, de toute façon, sur l'environnement, etc. Mais enfin, il faut aussi que les gens puissent vivre confortablement, ne pas se sentir mis au banc de la société parce qu'ils sont dans un territoire où il n'y a pas une gare à moins d'une heure. Donc moi, c'est pour ça que quand je rencontre les Mayennais, j'y vais dans une posture hyper ouverte, hyper honnête aussi, en disant on peut pas tout faire, enfin on est d'accord, quoi. Et il faut essayer juste de faire le moins pire possible, de mieux en mieux, et d'essayer d'abord de pas les culpabiliser sur tous les sujets. Ça, c'est aussi vrai par exemple pour les agriculteurs, parce que je sais que il y a des relations très conflictuelles aussi entre les écologistes et les agriculteurs sur certains sujets, notamment des sujets de bassines, etc. récemment. Le sujet de la viande, par exemple, parce que dès qu'on est écologiste, on est souvent taxé de vegan ou végé, etc. Et ils prennent ça comme une attaque personnelle alors que ça ne l'est pas du tout. C'est plus, moi, je suis plutôt sur une posture de se dire, personnellement, je mange de la viande, je veux juste en manger de la locale, en fait, et de la bonne. Je ne veux pas manger de la viande importée d'Amérique du Sud. Enfin, voilà. Donc, c'est tout un discours qu'il faut essayer d'avoir, une pédagogie qu'il faut essayer d'avoir, et aussi de s'imprégner tout simplement des ressentis des gens.
Oui, de se dire que agriculture et écologie, c'est pas forcément des choses... Enfin, on peut lier, je pense, réussir à lier les deux.
Mais même au-delà de pas incompatible, c'est totalement compatible, et c'est fait pour être compatible. Enfin, je veux dire, les agriculteurs sont les premières sentinelles de la nature, et peuvent être les premières sentinelles de la nature, quoi. C'est quand on a des prairies, quand on a des bocages comme en Mayenne, c'est capteur de carbone. L'essentiel étant juste de préserver ce qu'on a, c'est-à-dire préserver tout ça, préserver l'eau, préserver un élevage extensif, le moins impactant possible en fait, en termes de déforestation parce qu'on met du soja, en termes de culture, on va dire, intensive autour du maïs, etc. Même si je trouve que le modèle au final mayennais reste assez viable par rapport à des grandes étendues de céréales qu'on voit ailleurs en France, etc. Il faut juste mesure garder, notamment sur les pesticides, etc., où là, bon, c'est quand même des chevaux de bataille écologistes. Mais sur le reste, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre ce que veulent les écologistes, ce qui est faisable en France, où il y a déjà beaucoup de normes, et ce qu'ils font, en fait, au quotidien. Ouais. C'est souvent des postures, en fait.
Oui.
Parce que si les écologistes auraient vos pouvoirs, on va pas dire à tous rangez vos vaches, remettez des parcelles de moins d'un hectare partout, et voilà quoi. Enfin, il faut être réaliste.
Ouais. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a. Alors, est-ce que c'est un ressenti personnel ou est-ce que c'est. Ça a toujours été comme ça, je sais pas, mais je trouve qu'il y a quand même, pour certaines personnes, une fracture entre le milieu politique et, comme on disait, la réalité que les gens peuvent vivre au quotidien. Et je trouve ça intéressant, effectivement, que tu te dises, je suis dans une posture d'écoute et essayer de reconnecter les gens, parce qu'au final, t'agis.
On est des gens, on est tout simplement, en fait.
C'est un engagement qui, je trouve, quand même très important, parce que si personne n'est engagé politiquement, si personne ne défend ces valeurs-là, c'est des choses qui peuvent se perdre et il faut qu'effectivement qu'on puisse...
C'est ça.
Qu'on puisse avoir confiance, quoi.
Mais c'est vrai. Et en fait, c'est ça tout le boulot d'un élu local, en fait. C'est d'essayer de faire le lien entre les deux. Entre la réalité de la vie quotidienne là, des gens et les grandes orientations politiques qui peuvent être prises, quoi. Et effectivement, nous, on a un idéal en tant qu'écologiste de la société dans laquelle on aimerait vivre et de ce qu'on aimerait léguer aux générations futures. L'essentiel étant tout simplement d'arriver à faire... le moins pire possible. Mais en fait, on en est là, c'est surtout ça, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à adapter nos valeurs, nos ambitions à la réalité actuelle et à ce que les gens peuvent faire, tout simplement, quoi.
J'avais aussi envie d'aborder avec toi... on va dire, une partie quand tu es arrivé, on va dire, par exemple, au conseil régional ou dans d'autres, mm-hmm. dans d'autres structures. Comment est-ce que tu t'es sentie en tant que jeune femme mayonnaise? Mm-hmm. Alors, on pourrait te séparer en tant que jeune,
oui.
en tant que femme et en tant que mayonnaise.
Ah oui, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup de points, mais je pense que... Est-ce que tu t'es sentie légitime? Est-ce que ça a été compliqué au début?
Oh, c'était compliqué au début, oui, je dirais. En fait, alors, en soi, je trouve que d'être une jeune femme, au début, c'est, alors, ça m'a surtout permis, en fait, d'être dans cette posture où, en fait, ils avaient presque besoin de ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait tellement pas D'accord. de femmes en politique, tellement pas de jeunes en politique, que quelque part, ça apportait quelque chose, en fait, d'être une jeune femme. Mais ensuite, une fois qu'on accède au pouvoir, là, c'est compliqué, parce qu'il faut quand même faire ses preuves. Il faut faire ses preuves... presque deux fois plus quoi, qu'un homme. Ça, c'est quand même, je pense, quelque chose que toutes les femmes ressentent. C'est de, pour la légitimité, effectivement, pour l'acquérir, il faut donner beaucoup d'énergie. Donc, ça vient, en fait, avec le temps, au fur et à mesure des sessions, etc., où ils voient qu'on travaille, qu'on est là, qu'on a des vraies idées, qu'on les porte, qu'on les... Voilà, et qu'on se démonte pas non plus, hein, parce que... Ça reste un milieu viril, non pas masculin, mais viril. Et c'est-à-dire que j'entends par là que même les femmes politiques développent des attraits virils pour pouvoir survivre dans ce monde-là, quoi, parce que c'est un milieu assez, assez dur, quoi. Donc, il faut réussir à s'imposer en tant que femme, à ne pas adopter les codes masculins au maximum, et à s'imposer avec notre style, quoi. Mmh. Parce que, aussi, ça vous la voit aux autres femmes. Mmh. Et en fait, pour moi, tout est là. C'est-à-dire que le féminisme est là. C'est pas, l'intérêt n'est pas d'être une femme au milieu d'hommes, d'être une schtroumpfette, comme on dit, quoi. l'intérêt, c'est d'être une femme en politique, mais parfaitement, qui a parfaitement sa place, comme, en fait, les femmes représentent la moitié de la population. Donc, elles devraient être à moitié présentes dans le monde politique. Et tout est là pour ouvrir la voie à d'autres, et pour qu'en fait, on en arrive à cet équilibre-là. Cet équilibre, il est assuré parfois par la loi, quand on a des obligations de parité, et c'est le cas à la région. Par contre, dans certains autres, on va dire, niveaux de collectivité, et notamment les intercommunalités, il n'y a pas d'obligation, puisque là, c'est les maires qui deviennent ensuite conseillers intercommunaux. Oui. Et bon, bref, dès qu'on voit qu'il n'y a pas d'obligation paritaire, on voit que les hommes reprennent tout de suite au moins 3/4 du pouvoir. En général. D'accord. On a des chiffres, voilà, ça représente à peu près 3/4. Parce que pourquoi ? Parce qu'au final, on peut avoir des obligations de parité, mais le premier, ça sera souvent un homme, en fait. Et la réalité, c'est ça, encore. Aujourd'hui, et notamment en Mayenne, la plupart des maires sont des hommes. Il y a des maires femmes, enfin, je veux dire, mais c'est quand même une grande majorité écrasante d'hommes qui sont maires aujourd'hui en Mayenne et en France, quoi. Ouais. Donc, l'enjeu, il est encore là. Il est que, bon, les femmes sont là, hein, mais elles ne sont pas encore... en tête. Oh. Voilà. Okay. Alors qu'elle devrait, si on suit la population maintenant, elle devrait être à la moitié des têtes des villes de France, et voilà. Voilà, et en tant que mayennaise, bon, alors c'est aussi compliqué, puisqu'au conseil régional, la Mayenne, c'est le plus petit département.
C'est ce que j'allais dire.
Donc, si vous voulez, on est 7 élus mayennais sur 93.
D'accord.
Toutes
il faut se battre.
Couleurs politiques confondues, effectivement. Donc, je suis la seule mayennaise écologiste en Pays de la Loire. Et il y a aussi, donc, pour la gauche, Guillaume Garot, donc, qui est dans l'autre groupe de gauche. Mais voilà, on est les deux seuls conseillers régionaux d'opposition. Donc les 5 autres sont de la majorité régionale. Donc effectivement, on essaye de porter nos petits sujets locaux. Dès qu'il y a quelque chose sur la Mayenne, on les prend à bras-le-corps, il n'y a pas de problème. Puis voilà, on essaie surtout de faire vivre la région en Mayenne aussi, d'être présent quand il faut la représenter. Peu importe le biais, que ce soit des manifestations, on va dire, plutôt publiques ou dans les comités, les conseils d'administration des lycées, je disais, etc. Enfin, voilà, on essaie d'être le maximum présent, mais c'est vrai qu'il faut faire vivre la voix de la Mayenne le plus possible. Moi, j'essaie aussi de la faire vivre, par exemple, dans le parti, au-delà de la région. J'essaie de porter la voix des territoires dans le parti, c'est vraiment mon truc.
Pour des personnes qui voudraient s'engager politiquement, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il y a, tu penses, des qualités aussi humaine à avoir, parce que par exemple quand tu disais tout à l'heure, voilà, pour défendre ses idées, je pense qu'il faut une certaine confiance en soi, il faut... réussir à prendre la parole en public.
En fait, alors pour s'engager politiquement, déjà il y a plusieurs niveaux. Ça peut être du militantisme, ensuite passer vers des mandats, etc. Donc c'est Il y a vraiment plusieurs portes d'entrée. Hein. Enfin, on peut juste aller toquer à la porte, on voit de la lumière, on se dit, bon, bah, je vais aller voir une réunion, je vais peut-être prendre ma carte dans un parti, voilà. Et ensuite, intégrer un groupe et puis évoluer comme ça et essayer de faire son petit chemin comme ça dans le parti. Il y a des voies plus déviées, enfin, par de l'associatif, par du professionnel sur des sujets importants et ensuite se rapprocher des partis. Mmh. Enfin, il y a plusieurs, vraiment, il n'y a pas de recette toute faite pour faire de la politique.
Il n'y a même pas d'études particulières.
Non, bah après, même, voilà, les études, par exemple, de Sciences Po, on se dit c'est sciences politiques. Oui, enfin, en fait, les personnes qui font Sciences Po peuvent aussi surtout faire du journalisme, sont collaboratrices d'élus, en fait, justement, mais pour être élue politiquement, il n'y a pas de recette magique. Hein. C'est vraiment, oui, ça se fait presque parfois par hasard ou alors par volonté, par rapprochement, etc. Mais chaque parcours est hyper différent. Moi, des gens que je rencontre, il n'y en a pas un qui fait les mêmes trucs. Hein, donc, c'est très particulier. Et les qualités, effectivement, ouais, en fait, c'est le culot d'abord, je pense. Enfin, le culot, ou en tout cas, abandonner la peur de s'exposer, parce que c'est d'abord ça. C'est d'y aller, quoi. C'est de se dire, bon, bah, j'y vais. Et même si, au début, on ne sait pas bien parler, on n'a pas forcément confiance en soi, et justement, ce sentiment de légitimité qui n'est pas encore là, c'est juste de se dire, bon, bah, j'y vais. À un moment, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Et ensuite, on apprend, quoi. Malheureux. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, c'est sur le tas. Donc au début, on fait des erreurs, on commet des impairs, et j'en commets encore. Et ensuite, on apprend petit à petit à s'exprimer, on est entouré par des gens qui nous apprennent comment faire, on apprend à maîtriser les sujets, tous les sujets desquels on devra parler. Et ça se fait vraiment avec le temps, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui seront plus doués dans un domaine ou un autre, il y en a qui seront beaucoup plus médiatiques, et qui feront peut-être moins de, je sais pas, de rencontres sur le terrain, etc. Il y en a qui seront beaucoup plus terrain, qui vont préférer aller voir les gens en direct, etc., faire moins de médias, parce qu'ils sont moins à l'aise. Enfin, faut s'adapter aussi au caractère de chacun, quoi. L'essentiel étant de faire du mieux qu'on peut, là où on est bon, quoi.
Tu penses qu'il faut quand même avoir envie, ou du moins avoir conscience que tu vas être visible médiatiquement, que Solène Ménager va être, ton avis va être partagé, que tu vas pouvoir, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, et...
Oui, en fait, il faut avoir cette conscience de ne plus avoir une parole que personnelle, mais de représenter aussi des gens qui ont voté pour nous et un parti auquel on appartient. Donc il y a une certaine loyauté à avoir aussi par rapport à ça. Donc effectivement, il faut trouver le juste milieu entre garder une certaine sincérité personnelle, une incarnation de ce qu'on dit, et en fait y croire, parce que moi je mets un point d'honneur à ne pas dire des choses auxquelles je ne crois pas, et... à en même temps accorder ce discours à ce que les gens qui ont voté pour nous attendent de nous, à ce que à la ligne de notre parti aussi. Donc c'est un équilibre aussi très 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 tendu, quoi. Donc il faut s'attendre à être exposé effectivement, et à ce que à la moindre incartade ou à la moindre chose à côté, on soit tac snipé. Enfin voilà, il faut s'y attendre.
Donc c'est
le jeu politique, ça fait partie du job comme on dit. Hein. Donc moi j'essaie de faire attention à tout ça. Même si j'aime bien quand même sur mon compte, par exemple Instagram et tout, garder une certaine parole libre, et puis partager un peu de ma vie aussi au quotidien, même si c'est pas forcément en lien avec la politique, parce que en fait je suis une personne normale, quoi, et n'importe qui en politique ou dans un parti sera jamais 100% parfait, enfin on reste des gens, quoi, normaux, en fait, et on essaye juste d'aller, vers le moins pire, de faire le plus possible ce qu'on peut, mais sans pour autant être la perfection incarnée, quoi.
D'accord.
Il n'y a pas de recette magique, quoi. C'est juste ça que je voulais partager. C'est en politique, par exemple, hein, c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément sa place comme ça. Il faut la créer maintenant. Et surtout quand on est une jeune femme, comme tu dis, il n'y a pas forcément beaucoup d'exemples, en fait, autour de nous. Donc, on navigue un peu à vue. On prend les choses comme elles viennent. Et puis, moi, j'essaye d'affirmer un certain mode de faire, un certain style. Enfin, voilà. Tout en étant la moins nocive, on va dire, à mon parti possible, et ensuite d'être la plus, par contre, efficace et impactante au quotidien pour les Mayennais, pour les Pays de la Loire, etc., possible, dans la posture où je suis.
Voilà. Très bien. Pour les années à venir, est-ce que ton ambition et ton engagement politique, tu as envie que ça aille plus loin que le conseil régional, ou tu te sens aujourd'hui à ta place et tu ne te vois pas aller au-delà, ou est-ce que de défendre tes valeurs, ça va peut-être t'amener aussi plus loin?
Bonne question. Non, mais alors, évidemment, la politique, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambition aussi. Et oui, personnellement, j'aimerais aller le plus loin possible en politique. Après, je me plais énormément à la région, et si ça restera à la région, c'est déjà très bien en fait, c'est déjà un très bel échelon. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Donc je ferme la porte à rien du tout. Là, les prochaines échéances, elles sont quand même assez lointaines. Bon, il y a des européennes l'année prochaine, mais je vais pas aller aux européennes. Hein. Mais voilà, en tout cas, je travaille pour pouvoir au moins rester à la région le plus longtemps possible. Si d'autres opportunités se présentent pour aller plus loin, oui, je les prendrai aussi. Enfin, je travaillerai pour.
C'est comme tu disais, le fruit peut-être du hasard, le fait voilà. De rencontres aussi.
Exactement, les rencontres, les opportunités qui se présentent à tel ou tel moment. En fait, c'est vraiment beaucoup de hasard quelque part. Enfin, c'est une fenêtre qui s'ouvre à tel moment parce que telle ou telle personne va venir nous chercher ou telle personne s'en va. Enfin voilà, il y a vraiment pas de recette magique et tous les plans qu'on peut se faire en tête du jour au lendemain en politique, ils peuvent s'écrouler parce que voilà, il y a tellement de changements qu'ils soient nationaux, locaux, etc. Que c'est bien de faire des plans à 5 ans, mais en fait en politique ça marche pas les plans à 5 ans. C'est pas comme les entreprises.
Quel parti politique sera voilà. À tête de la France, de la région.
Non,
de...
c'est ça, et puis on est vraiment soumis au vote des gens tout simplement, oui. Donc ma foi, il faut s'y résoudre. Hein. C'est un milieu où. Précaire, si, c'est ça.
Est-ce que tu restes quand même optimiste sur notre avenir et l'avenir de la France et du monde, je pense en général que ce soit par rapport à l'écologie ou autre, ouais. Pour les générations futures, ou est-ce que la situation actuelle et les décisions aujourd'hui qui sont encore prises, est-ce que ça te fait peur ?
Ouais, alors j'aimerais bien être porteuse d'espoir pour cette question, hein. Mais effectivement, alors je trouve qu'on est quand même dans une situation très critique. On a dépassé beaucoup de limites planétaires, sur le cycle de l'eau, sur les températures, voilà, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et malheureusement, je trouve qu'en fait, le pouvoir en place aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur des urgences. Donc, à la fois en France et à la fois en fait dans le monde, malheureusement. Et qu'on n'est pas, c'est pas la France qui va sauver le monde en plus. Enfin, on est 1% des 1% de la population mondiale, voilà. Même pas. Enfin, donc, ouais, j'aimerais être optimiste. Je me dis qu'il y a des belles choses qui arrivent. Il y a quand même des avancées, ça c'est sûr, et qu'on peut encore en faire en fait. On a encore le temps d'en faire. Maintenant, c'est sûr qu'on va vers un monde où on va vivre des étés très chauds, où on va vivre des épisodes climatiques extrêmes, beaucoup plus qu'avant. Ça, faut s'y résoudre. Et en fait, en même temps que de le préparer, il faut d'abord s'adapter aussi maintenant. On en est là, c'est-à-dire qu'on a conscience de ce qui va arriver, on a des projections par le GIEC,
oui, c'est plus
par
les scientifiques. Futur,
c'est maintenant. Voilà, ouais. Les agriculteurs le vivent aussi déjà. Donc, il faut arrêter de se cacher, voilà, de se voiler la face. Le problème est là aujourd'hui. Il faut s'adapter du mieux possible pour que le moins possible de personnes en souffrent, en France, et encore, j'insiste encore une fois, à l'étranger, notamment en Afrique, etc., puisqu'il va quand même y avoir beaucoup aussi de migrations climatiques, parce que des pays vont devenir tout simplement invivables. Donc, voilà, je pense que le pouvoir actuellement en place n'est pas du tout à la hauteur de ces enjeux, et je pense que l'urgence est là, et qu'il faut agir vite, et que chaque année compte maintenant. Donc, c'est plutôt pour ça que je m'inquiète. Maintenant, voilà, chacun à sa place fait du mieux qu'il peut. Et ensuite, nous verrons bien ce qui arrivera. Ouais.
Très bien. Bon. En tout cas, mais bravo pour ton engagement. Et je trouve ça voilà, chouette et très important d'avoir des personnes comme toi qui défendent ces valeurs-là et qui les portent pour effectivement un avenir meilleur. Et même si, voilà, comme on disait, même si des fois on a peu d'espoir sur certaines choses, je pense qu'il faut continuer à être engagé et à avancer.
Merci beaucoup et merci d'avoir donné la voix à ce sujet dans le podcast. En tout cas, c'est hyper intéressant.
Plaisir.
Merci beaucoup à toi.
De rien. Je termine du coup les épisodes d'Elle en Mayenne par deux questions. La première question, c'est quel est ton endroit coup de cœur en Mayenne, un lieu qui reflète ta Mayenne?
Ah, ma Mayenne, enfin, alors bon, évidemment, c'est plutôt le nord Mayenne. C'est là où je suis née, c'est à Javron-les-Chapelles, hein, c'est chez moi. Enfin, c'est vraiment chez moi de cœur. Je vis plus là-bas, mais c'est vrai que bon, j'ai grandi là-bas, j'y suis née. Enfin, il y a eu toute ma famille là-bas et il y a encore ma famille là-bas en fait. Donc, c'est un petit village de 1400 habitants dont on parle pas beaucoup, qui est sur la nationale, coupé par la nationale, donc un lieu de passage. Mais un lieu, au final, où il y a des gens exceptionnels, où il y a beaucoup de gens engagés aussi. Et voilà, que ce soit dans les pompiers, parce que je les connais, parce que voilà, j'y ai passé beaucoup d'années, que ce soit dans la mairie, des gens qui, au quotidien, travaillent vraiment pour le bien locaux, et puis dans les assos, en fait. Parce que j'y pense parce que je fais le bulletin municipal en ce moment de Javron-les-Chapelles, donc il y a tellement de gens engagés à Javron que c'est vraiment un plaisir d'y vivre. Et en fait, tout le monde se connaît, donc c'est très agréable. Et voilà, c'est que des lieux familiers, de souvenirs, et en même temps qui évoluent au quotidien, donc c'est vraiment l'endroit que je préfère en Mayenne. Voilà.
C'est le charme de la Mayenne aussi, je pense, toutes ces petites communes et ces villages où... Effectivement, moi, c'est pareil, je viens d'une toute petite commune, mais j'ai ce sentiment-là que tout le monde était engagé, tout le monde se connaît, mais voilà, que ce soit au niveau des associations ou autres, et ça porte, je pense, ça porte le département aussi. Quoi.
C'est clair, c'est ça l'identité profonde, je pense, de la Mayenne, c'est l'alliage de toutes ces petites villes.
Très bien. La deuxième question, du coup, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Elle en Mayenne ?
Là, je pense à Camille Chaudron, qui est en fait une amie aussi, une éveilleuse de conscience hein, sur tous les sujets écologiques, les sujets sociétaux, les nouveaux modes de vivre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui explore beaucoup et qui est très pédagogue dans sa manière de transmettre et en fait de montrer qu'un autre chemin est possible. Et elle le fait très brillamment d'ailleurs, par les réseaux sociaux, hein, avec son compte, le compte c'est Girl Go Green. Donc elle est arrivée en Mayenne il y a 2 ans maintenant, à Peton. Et elle a un parcours aussi assez atypique. Et c'est quelqu'un de très très inspirant, très enthousiaste aussi, et très porteur d'espoir justement. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans la cause écologiste, souvent on en a besoin. Enfin, on a beaucoup d'éco-anxiété. Quand on voit les chiffres tomber, on voit les analyses tomber, on est là, ah, ça va pas. Et en fait, elle ramène toujours quand même quelque chose sur la bonne humeur.
Sans culpabiliser
encore une fois les gens, effectivement. Et ça, c'est très important aussi pour moi. Donc, je l'ai connue au travers d'une campagne législative, mais elle n'est pas politique à la base. Hein. Elle est vraiment beaucoup plus militante. Et c'est aussi ça qui est hyper, hyper intéressant chez elle. Donc voilà, c'est elle que j'aimerais entendre si c'est possible.
L'invitation est lancée. Eh ben merci beaucoup en tout cas pour cet échange et cette discussion que j'ai vraiment appréciée.
Merci, moi aussi.
Donc voilà, je mettrai toutes les petites infos pour qu'on puisse suivre tes avancées et puis ton engagement du coup politique.
Merci beaucoup Amélie. Au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci.